Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 9 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale. Les titres. L'hivernage et le marché du charbon de bois. Alors que certaines ménagères dénoncent la hausse du prix du sac de charbon, d'autres se plaignent de la qualité. Les hommes de médias se forment depuis hier sur le traitement des sujets en lien avec la migration. L'initiative vient de l'OIM en collaboration avec le ministère de la Communication. Les enfants déplacés à Ansongo peuvent reprendre l'école. Les autorités locales, en collaboration avec les personnes déplacées internes, ont créé un centre d'apprentissage pour ces enfants. Le développement à suivre dans un instant avec Adama Amadou Haïdara à la mise en onde Nourndjiré. En cette période hivernale, il est presque devenu difficile de s'approvisionner en charbon de bois. Le sac autrefois vendu entre 4 000 et 4 500 est cédé aujourd'hui à 6 000 francs CFA par endroit, une situation qui inquiète les ménagères. Elles estiment que le charbon est aussi souvent mouillé. Des vendeurs de charbon expliquent cette cherté par le mauvais état des routes reliant les zones de production à la capitale. Mahamoun Baba Kunta s'est intéressé au sujet.
Ces femmes rencontrées au marché de Medinakura ont du mal à se procurer du charbon de bois. Ces ménagères estiment également qu'elles passent des heures assises autour de leur fourneau pour allumer le charbon mouillé.
Le charbon est vraiment très cher et souvent mouillé. Avant, on en achetait pour 250. Maintenant, pour une bonne cuisson, il en faut pour 500. Et les repas ne sont pas cuits à temps.
Même hier, ma fille a passé des heures pour allumer le charbon. C'était tellement mouillé.
Des vendeurs se disent conscients de ces calvaires. Selon eux, cette hausse des prix s'explique par l'hivernage. Toutefois, ils ajoutent que des dispositions sont prises pour conserver les sacs de charbon.
Je paye le sac de charbon de bois à 4 500 francs et je le revends à 5 250, souvent 5 500. Nous demandons aux femmes de comprendre que cette cherté ne dépend pas de nous.
Cette cherté, c'est juste une question de temps. Sinon, nous faisons des mois sans que le charbon ne soit mouillé.
Moi, je dispose de 2 à 3 bâches pour conserver mes sacs de charbon. On ne souhaite vraiment pas que les femmes soient fatiguées.
Le charbon de bois est devenu l'alternative de beaucoup de familles à cause de la cherté du gaz butane. Pourtant, des environnementalistes conseillent à la population de trouver d'autres alternatives au bois de chauffe vu l'avancée de la déforestation.
Vos commentaires et suggestions nous intéressent et réagissez tout simplement sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Plus aucun athlète malien en lice aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Le dernier espoir, Ismaël Koulibaly, a été battu tôt ce matin 2 à 1 en taekwondo. Et comme aux autres éditions passées, le Mali rentre à 100 médailles. Mieux outiller les hommes de médias dans le traitement des sujets en lien avec la migration, c'est l'objectif d'un atelier de 2 jours qui a débuté hier à la Maison de la Presse. La session est organisée par l'OIM en collaboration avec le ministère de la Communication. Les responsables des organisations de médias ont salué l'initiative et se sont engagés à accorder plus d'importance aux questions migratoires. Un reportage signé Lalaïcha Waletinfa.
La question de la migration occupe une place centrale dans les débats publics et médiatiques. Cependant, la manière dont elle est couverte par les médias peut influencer la perception publique et la politique migratoire. D'où l'importance de cet atelier à l'intention des journalistes. Georges Dominguez, représentant du chef d'émission de l'OIM au Mali.
Une couverture médiatique, équilibrée, factuelle, éthique, est essentielle pour présenter une migration avec une image humaine. En tant que professionnel des médias, les journalistes ont la responsabilité de mettre en lumière la complexité des histoires humaines, d'utiliser le langage approprié pour pouvoir parler et promouvoir une compréhension nuancée de la migration.
Le président de la maison de la presse, Bandjougou Danté, exhorte les hommes des médias à jouer le rôle qui est le leur pour promouvoir une communication équitable concernant les questions migratoires.
Mes chers amis, je souhaiterais vous inviter à plus d'assiduité, de participation et surtout d'engagement. Certes, nous sommes un monde de liberté, mais il y a des causes communes qui nous amènent à nous engager ensemble.
Il faut rappeler que depuis sa création en 1951, l'OIM a joué un rôle crucial dans la gestion des flux migratoires dans le monde.
À Ansongo, les personnes déplacées internes en intelligence avec les autorités ont créé un centre d'apprentissage pour les enfants de déplacés. Cette école reçoit chaque année des enfants de déplacés, notamment ceux qui avaient abandonné l'école. À Ansongo, ville qui abrite de nombreux déplacés, l'initiative a été saluée par la population et les autorités. Le reportage de notre correspondant Issoufa Moussa.
Les centres d'apprentissage reçoivent une centaine d'enfants, dont certains ayant abandonné l'école à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, ceux-ci parviennent à réapprendre à lire et à écrire grâce au centre.
Je m'appelle Al-Mahdi Gaou Bakri. Premier mal.
Je m'appelle Marie Toufès. Quatrième mal. Réchita Chamami. Voici Mami. Elle a 5 toits. Invasi.
Les centres bénéficient d'un appui financier de l'ONG NRC depuis bientôt 7 mois. Adlazi Takdid, responsable du site des déplacés, revient sur la genèse des centres.
Quand nous sommes arrivés ici, les familles étaient vraiment très, très, très nombreuses et que les enfants étaient débandés dans les rues. Donc nous avons eu peur de perdre ces enfants-là. Certains étaient déjà des anciens élèves. En tant qu'éducateur et responsable de ces déplacés-là, j'ai eu l'initiative en collaboration directe avec les CAP et les chefs de ménage. Les centres aujourd'hui fonctionnent avec des animateurs.
Avec des salles de classe en paille, et des élèves apprenant à même le sol, les centres ont besoin d'un appui de bonne volonté. Ansongo, Issou Moussa Touré pour Studio Tamani.
Restons toujours dans la zone. Un atelier de renforcement des capacités des commissions foncières villageoises COFO a démarré ce mercredi à Gao. La session de 2 jours vise à former les participants sur la gestion foncière et l'accès à la justice. À l'issue de l'atelier, la trentaine de participants ont affirmé qu'ils se sentaient désormais mieux outillés pour accomplir leur travail. La formation a été organisée par Trijude en partenariat avec le consortium AAD, Aide au développement durable et le financement du Cordaid dans le cadre du projet Juste Futur.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les cérémonies funèbres ont tendance à avoir l'apparence d'un baptême ou un mariage. Des sociologues expliquent cette situation par le changement de comportement dans la société. Pourquoi autant de dépenses dans l'organisation des funérailles? La réponse dans ce dossier avec Khalifa Guita.
Chacun a sa version des faits sur ces organisations en pompe des cérémonies funèbres. Écoutons ces réactions recueillies à Koutiala et à Bamako.
C'est un sacrifice, mais on a complètement perdu la notion. Si on a tendance à transformer les funérailles en mariage.
Et les gens contribuent à prendre en charge la famille que de contribuer pour faire dépenser la famille.
Les gens viennent commenter même les plats. Ça là, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de piment.
Moi, je juge ça très grave. C'est quand le défunt est un proche de toi que tu te rends compte, en fait, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas du tout.
J'ai vu 2 filles qui se sont chamaillées jusqu'à arriver aux mains à cause de la crème. Ça n'a aucun sens, honnêtement.
Le sociologue Foye Tandjougoura explique cet état des faits par la monétisation des services rendus lors des funérailles.
Que ce soit la cuisine collective, la location des chaises, la restauration, les services mortuaires et beaucoup d'autres services qui, autrefois, nécessitaient tout simplement la solidarité de toute la communauté. Mais aujourd'hui, la solidarité communautaire ne suffit plus. Les gens doivent débourser de l'argent pour faire fonctionner les cérémonies de funérailles. Donc c'est vraiment un changement général, pas que des funérailles, mais dans toutes les formes de cérémonies que nous observons aujourd'hui.
Mieux vaut secourir un malade avec une bonne sauce que de contribuer à l'organisation de ces funérailles, dit le pasteur Joseph Camara. Selon lui, le christianisme n'impose pas de charge à une famille endeuillée.
La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc par conséquent, les funérailles constituent un moment de deuil. Tout comportement dans le sens des réjouissances généralement est interdit. Préparer cela va dépendre du contexte. S'il y a des gens qui sont appelés à rester à la charge de la famille de la personne décédée, et là encore, les croyants sont appelés à contribuer
L'islam exige 4 étapes à suivre dans l'organisation de la cérémonie funèbre. Au-delà, le croyant, au lieu d'avoir des bénédictions, risque de se voir infliger des péchés. Les explications de Alassane Moribouba, islamologue.
Il s'agit du lavage mortier, de l'ensevelissement et de la prière mortière et la mise en terre, c'est-à-dire l'enterrement. Mais quant à l'organisation des fêtes et tout ce qui fait oublier le participant, la mort et les événements de la mort ne sont pas du tout souhaitables. L'islam nous exhorte à être modestes.
À noter également que chez certaines communautés au Mali, le festin est une tradition quand il y a un décès.
Heures passées de 10 minutes dans ce studio, ainsi se referme ce journal. Vous pouvez retrouver nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez réécouter également gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre dans un instant en appelant le service qu'on a fourni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Bonne journée de vendredi à tous. Pendant les vacances scolaires, de nombreux garçons et filles font le petit commerce. Certains exercent cette activité pour pouvoir payer des fournitures scolaires à la rentrée. Pour d'autres, c'est pour apprendre le métier du commerce très tôt. Cependant, les défenseurs des droits des enfants alertent sur les conséquences de cette activité sur les enfants. Les enfants et le petit commerce pendant les vacances scolaires, c'est le sujet du magazine Tous les enfants du Mali. Il est réalisé et présenté par Omar Ouigalo avec le soutien de nos correspondants.
C'est la période des grandes vacances scolaires partout dans le pays. Un moment propice pour de nombreux enfants de s'adonner au petit commerce. Cette activité leur permet de quoi acheter les fournitures scolaires.
Moi, je vends les habits pendant les vacances. Je peux vendre 6 000 francs ou 10 000 francs par jour. J'aime ce travail.
Je vends des condiments tels que les tomates, les bouillons et les oignons pendant les vacances.
Je vends des torches, les pochettes de téléphone pendant les vacances. Les bénéfices que je trouve me permettent d'acheter les fournitures scolaires.
Des parents interrogés à Yoroso, Bafoulabé et Bandiagara affirment que ces petits commerces ont plusieurs avantages pour les enfants.
Tu verras que les enfants sont à la maison, ils ne font que regarder la télé. Le petit commerce, ça c'est des résultats rapides.
C'est pour former les enfants au commerce, pour qu'ils grandissent en connaissant l'argent. Ça fait partie de l'éducation.
C'est pour éviter que l'enfant se divague ou bien l'enfant n'ait pas de mauvaises fréquentations.
Pour les pédagogues Dr Seydou Loua, ces petits commerces rentrent dans le cadre du processus de socialisation de l'enfant. En revanche, il prévient que ces activités doivent être bien organisées.
En soi, ce n'est pas une mauvaise chose pour l'enfant. Ça fait partie du processus de socialisation de l'enfant. Le fait que l'enfant apprenne à faire autre chose, à se servir de ses mains, à pratiquer quelque chose en dehors du cursus scolaire. Si ces petites activités-là de commerce sont bien organisées, si c'est juste pour que l'enfant ne reste pas à la maison, si c'est juste pour éviter de mauvaises fréquentations à l'enfant, peut-être c'est même une bonne chose pour les enfants pendant les vacances.
Les organisations de défense des droits de l'enfant insistent sur les conséquences et les risques auxquels s'exposent les enfants qui mènent ces petits commerces. Antoine Akplogan, président de la Coalition malienne des droits de l'enfant, déplore l'absence de textes pour encadrer ces secteurs informels.
Sur les routes, ils peuvent s'assimiler à un travail dangereux. Il y a risque d'accident. Un enfant ne doit pas aller travailler dans la rue. Et on doit éviter cela. L'État doit prendre des dispositions pour que ces enfants-là puissent ne pas être dans ces lieux. Les parents peuvent développer des astuces comme le travail socialisant en fonction de l'âge.
Rappelons que chaque année, les petits écoliers et petites écolières font ces métiers, faute de moyens pour les parents.